100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Imagine how the world could be so very fine, so happy together.
Bonjour, la fièvre immobilière ne retombe pas dans les métropoles européennes. Dans le trio de tête, Londres, Paris, Genève, mais en Suisse, il existe des alternatives pour avoir malgré tout un grand appartement, neuf, économe en énergie, et tout ça pour un prix inférieur de 20 à 30% à ceux du marché grâce aux coopératives d'habitants. Vous n'achetez pas un logement, mais des parts sociales dans une coopérative qui va financer sa construction. Mi-propriétaire, mi-locataire, le coopérateur profite en plus des nombreux espaces communs mis à disposition des habitants. Visite en compagnie de Jérémy Lanche à Genève.
Bonjour. J'ai jamais eu autant de monde dans l'appartement. Ouais. C'est une crémaillère en fait. Super.
Nous sommes dans la coopérative Équilibre entre le CERN et l'aéroport de Genève. Samuel fait visiter son appartement à des professionnels de l'immobilier. À Genève, les coopératives ne représentent que 2% des logements. C'est bien moins qu'à Zurich où c'est plus de 10%. Mais le système est en plein boom. Il faut dire qu'ici, trouver un appartement à prix modéré relève du parcours du combattant. Comptez environ 2700 francs, plus de 2400 euros pour un appartement avec deux chambres. Même avec un salaire suisse, ça reste très cher. Dans une coopérative, c'est à peu près 800 euros de moins, un argument qui a suffi à convaincre Samuel.
Ça fait longtemps que vous habitez là ?
Eh ben, ça va faire un an et demi.
C'est la première fois dans une coopérative ?
Oui, première fois, oui.
Et alors l'impression au bout d'un an et demi ?
Eh ben, je trouve belle association entre les gens, le plaisir de vivre ici et surtout un partage, mais que j'avais jamais vu avant.
L'aspect financier, ici on peut peut-être avoir quelque chose qu'on ne peut pas avoir forcément dans le centre de Genève.
Complètement, on n'aurait jamais pu avoir un aussi bel appartement sans ça, ça c'est sûr.
Même constat pour Manu, il est là depuis plus d'un an avec sa femme et ses deux filles.
Nous on habitait dans un tout petit appartement avec juste une chambre, puis après on a eu des enfants, puis les autres appartements étaient trop chers. Je changerais pour rien. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien qui va me demander de changer parce que mon loyer, il va baisser, il ne va pas remonter et on ne va pas me foutre dehors pour pouvoir augmenter le loyer. C'est tout bénef.
La coopérative ne cherche pas à faire de l'argent, juste à payer les charges de fonctionnement et à rembourser l'emprunt qui a servi à la construction des immeubles. C'est à ça que servent les loyers des résidents. Dès que l'emprunt est remboursé, la coopérative peut donc tout à fait baisser les loyers. Un système qui empêche la spéculation, d'autant plus que quand un locataire part, il récupère les parts sociales qu'il a versées, ni plus ni moins. Une formule qui séduit, surtout chez les jeunes, et qui permet une vraie mixité sociale où un banquier d'affaires peut avoir comme voisin un maraîcher bio. Un scénario plutôt rare, il faut bien l'avouer, ailleurs à Genève.
On attend la cordonniste parce que maman répète à 10h puis il est en retard.
Nous ne sommes pas au conservatoire ou dans un cours de solfège, mais bien au rez-de-chaussée de la coopérative. Christine et Julien viennent régulièrement jouer dans la salle de musique à disposition des résidents, seuls ou avec des groupes. Un rêve pour tous les artistes en délicatesse avec leurs voisins.
En tant que musicienne, je me régale. On a même deux salles, donc moi je viens régulièrement répéter ici avec mes groupes. Comme ça je dérange pas mes voisins et puis j'ai de la place ici, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut pour répéter. Super.
Tu peux venir quand tu veux, ça gêne personne, c'est surtout la sensation que tu es libre. Tu peux jouer la musique librement sans gêner personne parce que quand tu es chez toi, il y a toujours un voisin, ça le dérange.
Équilibre, c'est 3 immeubles, 64 logements, autant de familles et une notion du voisinage bien particulière avec des locaux partagés à chaque étage ou presque. Ouliamos est architecte et habitante de la coopérative.
Beaucoup, ils ont peur d'une vie communautaire, mais ce n'est pas une vie communautaire. On est une coopérative, chacun a sa porte qui peut fermer quand il veut. C'est plus une mise à disposition de locaux quand on veut. Donc on a 11 locaux communs qui sont mis à disposition gratuitement aux locataires, comme des salles de musique, des chambres d'amis, la grande salle commune, un bar à pantoufles, c'est le bar pour les habitants 24 heures sur 24, donc avec sa propre tireuse à bière et des choses comme ça.
Un bar à pantoufles ?
Oui, parce que l'idée, on doit juste sortir en pantoufles et on va chercher sa bière, on va croiser les voisins. Et ça marche, on a beaucoup de voisins en pantoufles qu'on retrouve là-bas.
Ici, pas de voiture. Les habitants sont priés de renoncer à leur véhicule quand ils s'installent. En échange, ils peuvent utiliser le service d'autopartage réservé aux résidents.
Donc on signe avec la signature du bail qu'on renonce à la voiture privée et il y a des dérogations. Si par exemple quelqu'un a absolument besoin pour le travail, il peut demander la dérogation au conseil d'administration de la coopérative. Mais tous les autres ont renoncé à leur voiture. Donc ici, on a 8 voitures pour 32 foyers. Et pour certaines, c'était très très douloureux de renoncer à leur voiture. Et bon, ils ont fait le pas et aujourd'hui, ils sont contents parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle voiture qui arrive, ils sont contents parce qu'ils n'ont pas qu'une voiture. Ils ont un jour une Ford C-Max, un jour ils ont un Volkswagen, un jour ils ont une Skoda. Et en fonction de ce qu'on doit faire, ben, on choisit choisit la voiture.
Exit donc la société de propriétaires. Les coopératives comme Équilibre misent plutôt sur une société participative de locataires solidaires. Et ça marche, à en juger par les 360 personnes sur liste d'attente. La coopérative prévoit de construire 215 nouveaux logements partout à Genève dans les prochaines années.
Money is such a beautiful word.
I know.
Aux Pays-Bas, les prix de l'immobilier se sont mis à grimper au rythme de la saga du Brexit. Bien connectés à leurs voisins avec une très bonne infrastructure numérique et une population en grande partie anglophone, les Pays-Bas attirent désormais des entreprises qui étaient auparavant basées à Londres, de Sony à Panasonic en passant par Bloomberg ou l'Agence européenne du médicament. Mais cette attractivité a un prix, la hausse de l'immobilier, qui contraint la classe moyenne à quitter le centre d'Amsterdam. C'est un reportage signé Frédéric Lebel.
Nous sommes à 10 minutes à vélo du quartier d'affaires et des écoles internationales, en bordure du superbe Vondelpark. Le quartier sud du vieil Amsterdam a tout pour attirer une clientèle huppée et souvent étrangère. L'agence immobilière Engel & Völkers s'est positionnée sur ce marché haut de gamme, justement, une de ces maisons typiques en briques avec une grande hauteur sous plafond et quatre chambres, vient d'être entièrement rénovée par un investisseur. Prix de vente, 2 325 000 euros. Elisa fait la visite.
La plupart du temps, ils cherchent un bien dans lequel ils peuvent emménager immédiatement. Alors, ce genre de maison entièrement rénovée font partie des biens qui partent le plus vite. Ici, vous avez un joli salon avec une terrasse sur le toit.
De 7 000 à 20 000 euros le mètre carré, les prix ont flambé dans ce secteur historique. Une hausse de 65% en 5 ans, autant dire que les salaires n'ont pas suivi. La patronne de l'agence, Barbara van der Grip, estime désormais que près de la moitié de sa clientèle est étrangère et en majorité britannique. Amsterdam s'adapte, mais à petits pas.
À Amsterdam, les maisons n'ont généralement qu'une seule salle de bain. C'est en train de changer, mais bon, encore 80% des habitations n'ont qu'une salle d'eau. Alors les clients sont toujours très surpris. Et s'ils trouvent un bien avec plusieurs salles de bain, ils sont très intéressés et ils veulent l'acheter tout de suite. Et puis, ils n'aiment pas non plus les escaliers qui sont très raides dans les vieilles maisons d'Amsterdam. Pour les étrangers, c'est pas facile de s'y habituer.
La raison de cet engouement, le Brexit, bien sûr. Une centaine de compagnies internationales basées en Angleterre ont déjà fait le choix d'Amsterdam. Sony, Panasonic, Bloomberg ou l'Agence européenne du médicament pour ne citer que. Le Royaume-Uni n'est plus désormais la porte d'entrée de l'Europe pour les compagnies internationales. Les Pays-Bas ont vite senti qu'il y avait un créneau à prendre.
L'anglais, c'est vraiment la deuxième langue la plus pratiquée ici. On est voisins et on a un peu la même mentalité. On dit toujours qu'on se situe entre les Britanniques et les Allemands dans notre manière de travailler. C'est pour ça que les compagnies préfèrent venir ici plutôt qu'en Allemagne ou dans un autre pays. Avec le Brexit, on a eu une période où tout le monde disait « il faut absolument déménager tout de suite et quitter le Royaume-Uni ». Ça s'est un peu calmé aujourd'hui, comme si on s'était habitué. Mais s'il y a un nouveau rebondissement, alors beaucoup de gens vont à nouveau se mettre à quitter l'Angleterre pour aller à Amsterdam ou à Francfort.
Dans la banque néerlandaise ING, on suit de très près ces évolutions. Rico Luman est économiste. Pour lui, les entreprises ont fait un choix logique en élisant les Pays-Bas.
Du point de vue des employés, on parle toujours de la qualité de la vie. Ici, à Amsterdam, ce n'est pas trop grand, on peut facilement bouger pour se rendre en dehors de la ville. Il y a une véritable offre culturelle avec les musées. Pour les compagnies, elles mettent en avant d'autres avantages. Il y a une très bonne infrastructure Internet. Et puis, il y a un réseau en pleine croissance d'entreprises digitales très innovantes. Alors forcément, cela attire beaucoup de start-up de petite et de moyenne taille.
Mais ce nouveau dynamisme économique vient peser sur des infrastructures de transport déjà sous tension. Amsterdam ne compte que 5 lignes de métro, c'est beaucoup trop peu pour une ville aux ambitions internationales. Sur les grandes artères qui ceinturent la ville, les bouchons se multiplient. Une problématique de plus pour la classe moyenne qui se voit contrainte de quitter le centre-ville, désormais trop cher.
Bonjour. Oui, allez-y,
entrer.
Alice est ostéopathe. Elle vit à Amsterdam depuis 7 ans. Elle a connu le luxe de la résidence d'expatriés, mais un divorce et une flambée immobilière plus tard, elle a dû aller s'installer en banlieue, à Zaandam, la ville des moulins.
On était dans 3 étages, je ne sais pas combien de mètres carrés, mais c'était énorme, pour 4000 euros, payés par les compagnies. Moi, quand j'ai déménagé, donc je me suis séparée, j'ai emménagé dans un appartement qui devait faire 200 mètres carrés. Les surfaces sont très grandes à Amsterdam, ils n'ont pas du tout l'habitude des petites surfaces. Donc je me suis retrouvée dans 200 mètres carrés avec 3 chambres, avec 3 enfants. Donc il en manquait une. Et ça, là, je payais 2000 euros. Ce qui reste des loyers élevés, mais par rapport à la surface, c'est pas si élevé que ça. Et ensuite, il y a 2 ans... j'ai dû quitter cet appartement justement parce que les propriétaires ont vendu, mais ça a été très compliqué de trouver quelque chose d'abordable. Je me suis retrouvée dans un 60 mètres carrés pour 1850 euros, avec 2 chambres et toujours 3 enfants.
Pour faire baisser les prix, le gouvernement a prévu la construction dans le pays 1 million de logements d'ici 2030. Pas vraiment de quoi soulager les Néerlandais dans l'immédiat.
Comme d'autres grandes villes européennes, Varsovie est affectée par le phénomène Airbnb. La plateforme de location d'hébergement totalise plus de 5000 annonces dans la capitale polonaise. On est loin de Paris et de ses 70 000 annonces, mais le phénomène commence à inquiéter les Polonais. Car le site participe à la hausse généralisée du prix des loyers. À Varsovie, Thomas Giraudeau.
3000 offres en octobre 2016, presque le double 2 ans et demi plus tard. Le rythme effréné de la croissance d'Airbnb dans la capitale polonaise est impressionnant. Dans l'hypercentre, à Śródmieście, un appartement sur 20 est loué sur Airbnb, d'après un rapport de l'université de Varsovie commandé par la mairie. Plus rentable que la location à long terme et 2 fois moins cher en moyenne que les hôtels de Varsovie, Airbnb bouleverse le marché locatif. Malgré les multiples chantiers dans la capitale, les offres se raréfient dans les quartiers les plus centraux. Ajoutez à cela le dynamisme économique de Varsovie, le très faible chômage, les demandes de logements sont bien supérieures aux offres et les prix des locations à long terme augmentent mécaniquement. Il y a très peu d'appartements à moins de 500 euros par mois sur le marché et les logements pour une famille coûtent au moins 1000 euros alors que le salaire moyen est de 1200 euros brut. Le loyer moyen par mètre carré a augmenté de plus de 2 euros en 4 ans. Pour un appartement à 600 euros en 2015, il coûte aujourd'hui 13% plus cher. Alors les familles s'installent de plus en plus en périphérie de Varsovie, sans transport en commun efficace pour se rendre au travail. Elles aggravent encore les problèmes de congestion de bouchons dans et autour de la capitale. Mais Varsovie ne semble pas prendre le problème trop au sérieux. Des discussions sont en cours avec Airbnb et Booking, selon la mairie. Mais les deux sites refusent de délivrer des données personnelles sur les propriétaires. Et la loi polonaise ne donne aucun pouvoir aujourd'hui aux grandes villes. Rien ne leur permet de réglementer, de limiter, par exemple, le nombre de jours où un bien peut être loué via Internet.
La ministre autrichienne de la Justice affronte les attaques racistes et sexistes. Alma Zadic est une pionnière dans ce pays de 8 800 000 habitants en Europe centrale. Elle est née en Bosnie. Elle est devenue il y a quelques jours la première ministre issue de l'immigration à rejoindre un gouvernement en Autriche. Elle fait partie de la coalition au pouvoir entre les Verts et les conservateurs du chancelier Sebastian Kurz. Et sa nomination a libéré un torrent de haine. Les précisions à Vienne de Céline Béal.
Qu'est-ce que cette Yougoslave vient faire au gouvernement? Une criminelle musulmane arrive à la justice, bientôt la charia. Ou encore, elle... pas parler allemand. Voilà quelques-uns des commentaires relevés par les médias autrichiens sur les réseaux sociaux. Ils illustrent le torrent de haine qu'a inspiré la nomination d'Alma Zadic à certains internautes, souvent proches de l'extrême droite, et qui lui vaut maintenant une protection policière. À 10 ans, en 1994, Alma Zadic fuyait la guerre en Bosnie et arrivait avec ses parents en Autriche. À 35 ans, mardi dernier, elle devenait ministre de la Justice dans ce pays. Elle fait partie de l'équipe toute neuve du second gouvernement mené par le jeune conservateur Sebastian Kurz. Il avait déjà gouverné en coalition avec l'extrême droite. Il a maintenant formé une alliance avec les Verts, parti auquel appartient Alma Zadic. Les attaques en ligne qui la ciblent sont de nature sexiste et raciste. On la suspecte d'illettrisme. Elle est en fait titulaire d'un doctorat, ancienne étudiante de l'université Columbia à New York et ex-associée principale dans un cabinet d'avocats international. On l'associe à la charia, la loi islamique. Son parti rappelle qu'elle n'a aucune appartenance confessionnelle. On la traite de criminelle. En réalité, elle a seulement été condamnée en première instance pour diffamation. Dans un tweet, elle avait accusé de fascisme un homme qu'elle avait cru voir faire un salut nazi. Première ministre immigrée, c'est aussi la garde des Sceaux la plus jeune jamais vue en Autriche. Même si elle est de 2 ans l'aînée du chancelier Kurz, qui a lui seulement 33 ans. Et c'est la seule membre écolo du gouvernement qui ait remporté un portefeuille régalien. Mais il lui sera difficile de briller à ce nouveau poste alors que son ministère manque cruellement de moyens.
Le président turc voudrait contrôler le ventre des femmes. Recep Tayyip Erdogan a l'habitude d'appeler ses concitoyennes à mettre au monde toujours plus d'enfants. L'indice de fécondité des Turcs le désespère. Il stagne à un peu plus de 2 enfants par femme, 2,2 exactement, alors que le chef de l'État en voudrait 3 par femme au minimum. Le 9 janvier dernier, il a relancé la polémique en dénonçant cette fois l'âge de plus en plus tardif du mariage dans son pays. Bonjour Anand Loer.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce qu'il a dit le président turc exactement ?
Alors, au milieu d'un discours célébrant la famille, comme je cite, la colonne vertébrale de notre existence nationale, Recep Tayyip Erdogan s'est lancé dans une tirade contre les jeunes qui convolent de plus en plus tard. Il a regretté, je cite, que la plupart de nos filles et de nos hommes se marient vers 30 ans ou restent à la maison, sous-entendu restent célibataires. Le nombre de ceux qui ne se marient pas augmente, a-t-il déploré, avant de s'en prendre aux médias qui, je cite toujours, légitiment et même encore pire, encouragent le concubinage. Tout son discours était construit sur cette rhétorique moralisatrice et paternaliste. Le président turc s'est d'ailleurs décrit, en parlant de lui-même à la troisième personne, comme Erdogan, le chef d'un État paternaliste. Ses propos ont été largement repris et commentés sur les réseaux sociaux, notamment par ses opposants, qui ont vu une nouvelle intrusion dans la vie privée des jeunes Turcs.
Les intentions politiques sont claires, Anne, mais les chiffres, eux, que disent-ils ?
Alors, en Turquie, l'âge moyen au premier mariage ne cesse en effet d'augmenter. Il est aujourd'hui de 30 ans environ chez les hommes et d'un peu plus de 26 ans chez les femmes, alors qu'il y a 10 ans, l'âge moyen était de 26 ans chez les hommes et 23 ans chez les femmes. Dit autrement, et selon d'autres chiffres officiels, 35% des Turcs se marient aujourd'hui après 30 ans, alors qu'il n'était que 30% à se marier après 30 ans en 2012. Donc, pour ce qui est du constat, le président turc a raison. Il est aussi vrai d'affirmer qu'il y a de moins en moins de mariages. Depuis quelques années, le nombre d'unions célébrées chaque année diminue par rapport à l'année précédente. Et dans le même temps, le nombre de divorces augmente. Entre 2018 et 2019, il a par exemple bondi de 11%.
Anne, comment est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation de l'âge moyen du mariage chez les Turcs ?
Eh bien, les raisons sont assez classiques. Il y a d'un côté des tendances de fond, notamment une, les Turcs font des études de plus en plus longues. Les jeunes femmes, surtout, sont de plus en plus nombreuses sur les bancs de l'université. Actuellement, plus de 13% des femmes turques de plus de 25 ans sont diplômées de l'enseignement supérieur, contre 5% seulement il y a 20 ans. Or, en général, plus les jeunes étudient longtemps, plus ils se marient tard. Et en particulier, plus les femmes sont diplômées, plus elles ont de chances d'être indépendantes financièrement et plus elles se marient. Il y a aussi cependant des explications liées à la conjoncture. Depuis quelques années, l'économie turque va mal et le chômage ne cesse d'augmenter, notamment le chômage des jeunes. Un Turc sur 4 entre 15 et 24 ans ne trouve pas de travail. Même les diplômés de l'université ont de plus en plus de mal à décrocher un emploi. Et ces difficultés, ces incertitudes sur leur avenir les font réfléchir évidemment à 2 fois avant de se marier et d'avoir des enfants. Or, on l'a compris, Recep Tayyip Erdogan voudrait que les Turcs se marient plus tôt, justement pour qu'ils fassent plus d'enfants. Évidemment, il ne suffit pas de demander.
Merci Anne, à bientôt. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.